Bonjour à tous, nous sommes à la septième leçon. Aujourd'hui, on va parler des algorithmes d'étiquetage. Il y a des algorithmes, des procédures pour assigner des étiquettes aux structures créées par l'assemblage. N'est-ce pas ? Parce qu'il faut pouvoir distinguer les différents types de syntagmes, hein, syntagme nominal, syntagme verbal, syntagme adjectival, se comportent de manière différente, donc il faut avoir des noms pour exprimer ces différences. C'est une question qui est à première vue très technique, mais comme on va voir, c'est une question qui a quand même des conséquences et des implications qui vont bien au-delà de la spécificité technique du problème. Voilà. Revenons à la question du gel critérial. On a traduit comme ça le terme anglais « criterial freezing », le fait qu'il y a des positions syntaxiques d'arrêt où le mouvement doit nécessairement s'arrêter et on ne peut pas continuer à bouger un élément qui se trouve dans ces positions. Ce sont les positions critériales, les positions qui impliquent des têtes dont on a longuement parlé, des têtes comme Q, comme topic, comme focus, etc. Des têtes qui caractérisent des configurations pertinentes pour l'interprétation, en particulier pour l'expression de propriétés qu'on a appelées des propriétés de portée et discours. Nous avons vu deux types d'effets de gel la dernière fois. D'un côté, un élément WH, un élément interrogatif, qui est déplacé à une position critériale, donc les propriétés sont très interrogatives, sont satisfaites, eh bien, un tel élément ne peut pas continuer le mouvement. Donc, si, par exemple, en anglais, si vous obtenez une structure comme 1, I wonder which book John read, donc je me demande quel livre Jean a lu, on ne peut pas continuer le mouvement de which book. On ne peut pas obtenir des choses comme which book do you wonder John read, par exemple. Ça, c'est un cas. L'autre cas, qu'on a longuement discuté la dernière fois, concerne les positions sujet. La position sujet de la phrase est une position typique d'arrêt, hein, où le mouvement de type A, le mouvement de type argumental, peut s'arrêter. On a proposé un critère sujet qui exprime cette propriété de aboutness en anglais ou de à propos de, fondamentalement, le fait que le prédicat exprime ou présente un événement comme étant à propos du sujet. Une propriété interprétative qui est exprimée dans la position sujet. Et nous avons vu que, comme on s'attend, étant donné l'approche des critères, l'approche qu'on a essayé de développer, les sujets ne peuvent pas être déplacés ultérieurement. On a des effets de gel des sujets qui se manifestent de plusieurs manières. Une manière étant les effets de complémentaire trace, le fait qu'après un complémentaire, dans certaines langues, les langues non à sujet nul en particulier, on ne peut pas déplacer l'élément. Par exemple, en anglais, à partir de « Mary said that John was here », vous ne pouvez pas simplement topicaliser John de cette position, quelque chose comme « John, Mary said that was here » est mal formé, n'est pas bien formé. Et un phénomène que nous avons interprété comme une manifestation du gel critérial. Étendons maintenant un tout petit peu la portée de ces phénomènes de gel à une autre position. Nous avons vu une position haute dans le système du complémentaire, une position dans la partie haute du IP, de la structure de la phrase, comme la position sujet. Considérons maintenant une position plus basse, mais toujours avec une spécialisation de type portée-discours. Cette position focale basse que Adriana Belletti a analysée, en particulier dans le contexte, que nous avions déjà un tout petit peu discuté, de certaines alternances d'ordre, alternatives d'ordre dans des langues comme l'italien, entre l'ordre sujet-verbe et l'ordre verbe-sujet. Donc on peut avoir, comme vous vous souvenez, en italien, dans les langues romanes à sujet nul, l'espagnol, le portugais, ainsi de suite, le roumain, et des structures avec l'ordre sujet-verbe, comme 1A, Gianni ha cantato, donc Gianni a chanté, mais aussi avec l'ordre verbe-sujet. 1B ha cantato Gianni. Et comme nous avons vu, ce n'est pas une simple permutation qu'on a ici, mais le fait de choisir l'une ou l'autre structure a des implications par rapport à la configuration de portée discours. En particulier, l'ordre verbe-sujet est une manière de focaliser le sujet. Donc, par exemple, une structure comme 1B, ha cantato Gianni, c'est la réponse possible à une question WH sur le sujet. Donc, si vous posez la question qui a chanté, vous pouvez répondre en italien comme 1B. Nous avons vu aussi d'autres tests. Par exemple, un test pour les positions focales était, comme vous vous souvenez, l'anaphore rétrograde, donc le fait d'avoir un pronom qui précède l'élément nominal, et le pronom se réfère à l'élément nominal, mais cette possibilité n'est pas accessible si l'élément nominal est un élément focal. Et ceci montre qu'effectivement, dans l'ordre VS, l'élément post-verbal, le sujet post-verbal, est focal. Regardez les exemples en deux. De A, alla sua festa, Gianni ha cantato, donc à sa fête, Gianni a chanté. Ici, la fête peut bien être la fête de Gianni. Donc, vous pouvez interpréter sua, le possessif, comme se référant à Gianni, exactement comme en français, à sa fête, Gianni a chanté, tout à fait possible d'avoir cette interprétation. Mais si vous avez l'ordre post-verbal dans la principale, de B, alla sua festa ha cantato Gianni, alors la fête doit être la fête de quelqu'un d'autre, pas la fête de Gianni, n'est-ce pas? Vous avez cet effet d'impossibilité d'un effort rétrograde qui est typique des positions focales. Donc c'est un argument qui a été donné en faveur de l'idée que cette position focale basse et finale de phrase est en effet une position focale. Alors, si c'est une position focale, on s'attend à ce qu'il y ait un critère de focus satisfait dans cette position, et donc on s'attendrait à avoir des effets de gel. Est-ce qu'on peut tester des effets de gel dans cette position ? À première vue, c'est difficile parce que, disons, pour voir les effets de gel, il faut qu'une position soit obligatoire. Si elle est obligatoire, on est forcé de déplacer un élément par cette position. Donc, on peut voir si l'élément peut ou ne peut pas continuer son mouvement. Mais cette position focale basse est une position optionnelle. On peut la prendre ou ne pas la prendre. Donc, en principe, c'est difficile d'imaginer une possibilité de tester le fait de gel, parce qu'on pourrait toujours ne pas prendre cette position, et donc on ne verrait rien. Il faut donc chercher une construction où cette position focale basse soit obligatoire. Et en effet, cette construction existe. Et c'est une construction copulaire. On a déjà brièvement mentionné ces deux type de construction copulaire, hein, suivant la terminologie d'Andrea Moro, qui a longuement travaillé sur ces constructions. Il y a une construction copulaire canonique ou directe, illustrée par un Gianni è il direttore, ou en français Gianni è le directeur, en anglais Gianni is the director, où ce que nous voyons est qu'il y a une expression nominale référentielle, par exemple exprimée par un nom propre, Gianni, puis il y a la copule, et puis il y a une autre expression nominale prédicative, comme il direttore, par exemple. Et la structure inverse est caractérisée par l'inversion de ces deux expressions nominales, comme en deux, il direttore è Gianni. Donc le directeur, expression nominale prédicative, puis la copule, et puis le DP référentiel, comme par exemple le nom propre Gianni. Cette inversion est assez curieuse. Normalement, on ne peut pas faire ce genre de choses. Par exemple, on ne peut pas prendre un sujet et un objet et les invertir tout simplement en obtenant une structure bien formée. Donc, il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les structures copulaires qui permet cette structure, qui permet cette inversion. Un aspect saillant de la structure copulaire inverse, c'est que la position référentielle qui suit la copule est nécessairement focale. Donc, dans cette construction, cette position est obligatoirement focale. On peut montrer ça en utilisant notre test de l'anaphore rétrograde, par exemple. Prenez les phrases 1', nella photo della sua classe, donc sur la photo de sa classe, Gianni è il più bello. Ici, Gianni, disons, la classe peut être la classe de Gianni. Mais si vous avez la structure copulaire inverse, 2', nella photo della sua classe, il più bello è Gianni. Ici, ça doit être une autre classe, la classe de quelqu'un d'autre dont nous avons parlé avant. Donc, le test de l'anaphore rétrograde nous montre que dans la structure copulaire inverse ou inversée, le DP référentiel est nécessairement focal. Ceci peut être montré par plusieurs types de tests dans plusieurs langues. Par exemple, Caroline Haycock s'est occupée de cette question en regardant plusieurs constructions copulaires directes et inversées dans plusieurs langues. Et elle propose, par exemple, ce test, le test de question-réponse, pour montrer qu'en anglais, mais similement dans beaucoup d'autres langues, dans la construction inversée, la position post-copulaire est nécessairement focale. Exemple, on pose une question sur l'expression nominale référentielle. Who is the culprit? John or Bill? Réponse 1B, John is the culprit. Ici, évidemment, le focus est sur la position qui donne la valeur de la variable WH, donc qui correspond à l'élément référentiel ici. Donc, John est la position focale. Ou bien, on peut poser la question sur le DP prédicatif. Par exemple, en créant un contexte comme 2A, tell me about John, is he the culprit or the victim? Donc, la réponse ici va porter sur le DP prédicatif et vous pouvez très bien répondre en anglais 2B. John is the culprit étant l'expression focale ici. Mais si vous prenez la construction inversée, il y a une asymétrie. Vous pouvez très bien utiliser la construction inversée pour focaliser l'élément référentiel post-copulaire, donc 1'A, who is the culprit, John or Bill? Vous pouvez très bien répondre 1'B, the culprit is John, tout à fait possible. Mais si vous posez une question sur le DP prédicatif, et vous avez donc le DP référentiel comme topical, disons, ou en tout cas information donnée, 2'A, tell me about John. Ici, the culprit or the victim. Ici, vous ne pouvez pas du tout utiliser la construction inverse pour mettre le focus sur le DP prédicatif. Donc, 2'B, the culprit is John. Impossible dans ce contexte. Bien sûr, dans un autre contexte, ça serait tout à fait possible. Mais ici, vous ne pouvez pas le faire. Et la raison est évidemment que puisque nous avons vu, pour des raisons indépendantes, dans la structure copulaire inversée, la position post-copulaire est nécessairement focale, vous ne pouvez pas avoir le focus sur une autre position. On peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que dans cette construction inversée, on a nécessairement la focalisation sur l'élément post-copulaire ? Une réponse possible, celle que je voudrais maintenant vous présenter, fait appel à un principe de localité que nous connaissons déjà, un principe d'intervention comme la minimalité relativisée, et suggère que ce caractère nécessairement focal de la position postscopulaire dans les constructions inversées est une manière pour surmonter un problème de localité qui se présenterait autrement. Pourquoi ? Bon, considérons la dérivation de structures copulaires canoniques ou inverses. On partira d'une structure prédicative élémentaire, ce qu'on appelle en anglais une small clause, donc une phrase réduite, une phrase non verbale, une pure prédication, si vous voulez, donc avec Gianni, puis une tête prédicative, et puis le DP prédicatif, donc Gianni il presidente ou Jean le président. On peut voir ce type de configuration sélectionné par certains verbes, par exemple des verbes comme croire, hein, peuvent avoir une small clause de ce type directement sélectionnée. Vous pouvez dire des choses comme « je crois Jean le président »,« je considère Jean le président », par exemple. N'est-ce pas ? Cette structure peut aussi être le complément d'un verbe copulaire comme « être », et là, vous pouvez directement dériver la structure copulaire directe en déplaçant le DP référentiel à la position canonique de sujet pour obtenir Gianni è il presidente ou Jean è le président, par exemple. Maintenant, comment dériver la construction inverse ? On pourrait dire, ben, on part de la même structure sous-jacente et puis on déplace cet autre élément à la position sujet. Mais certainement, cette dérivation n'est pas bien formée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une violation de la localité. Vous voyez ici ce type de mouvement, comme la position sujet, on l'a vu la dernière fois, attire un élément nominal et l'attraction concerne l'élément nominal le plus proche. Un tel type de mouvement directement de la position finale, disons, à la position sujet, violerait la localité parce qu'il y aurait un élément nominal plus proche, évidemment. Donc, cette dérivation qui serait tout à fait directe de la construction inversée n'est pas possible pour des raisons de localité. Alors, l'idée qu'on peut considérer est que la focalisation nécessaire du DP lexical, du DP référentiel, est une manière pour contourner la localité. Les choses pourraient se passer de cette manière. On pourrait d'abord, à partir de notre configuration small clause, disons, de base, d'abord focaliser le sujet, focaliser le DP référentiel dans la position focale basse de Belletti. Ensuite, il pourrait y avoir une réorganisation des éléments. Ce type de réorganisation qui a été beaucoup étudié récemment par Chris Collins et d'autres, sous le nom introduit par Chris Collins, smuggling. Smuggling, c'est un autre terme qui rappelle un peu Ross, mais pour une fois, ce n'est pas un terme qui a été inventé par Ross. Vous vous souvenez, Ross a inventé tous ces termes extrêmement riche en imagination. Smuggling, ça veut dire en anglais contrebande, essentiellement. Donc, vous comprendrez pourquoi il y a cette sorte de métaphore. En tout cas, en utilisant ce terme, on se réfère à des réorganisations dans l'ordre des éléments prédicatifs dans la structure basse de la phrase. Et il y a un livre tout récent édité par Diana Belletti et Chris Collins, qui porte sur cette opération. C'est l'opération de réorganisation qu'on voit, par exemple, de manière très directe, dans la construction causative dans les langues romanes. Vous pensez à la construction causative en français, par exemple, vous partez de quelque chose comme « Jean a fait en sorte que Pierre a lavé la voiture ». Dans la construction causative, laver la voiture se déplace à la gauche du sujet de la subordonnée et vous obtenez une structure comme Jean a fait laver la voiture à Pierre ou Jean a fait laver la voiture par Pierre avec ce mouvement du prédicat verbal, en ce cas subordonné. Et puis Collins montre dans un travail classique que c'est ce type de réorganisation a lieu typiquement dans le passif et dans d'autres configurations. Alors on pourrait penser que ce type d'opération peut s'appliquer ici, dès une fois que qu'on a focalisé le sujet, ce qui reste de la structure prédicative peut être déplacé à une position intermédiaire, ici, avant la position focale. D'ailleurs, c'est le type d'opération qui peut s'appliquer dans les langues comme l'italien quand vous avez la focalisation du sujet dans une structure transitive où vous pouvez obtenir l'ordre, plutôt marqué mais possible, verbe-objet-sujet, VOS, donc quelque chose comme « ha risolto il problema Gianni », donc « ha résolu le problème Gianni », donc Gianni étant focal, résolu le problème, peut se déplacer à gauche. Donc on voit ici une manifestation de cette opération. Une fois que cette opération s'est appliquée, maintenant, quelque chose devrait être attiré à la position sujet canonique de la phrase. Ici, rien n'empêche le déplacement et l'attraction du DP prédicatif, ce qui permettra l'ordre inversé. Le président est Gianni ou le président est Gianni. Donc vous voyez que dans cette manière de voir les choses, la focalisation obligatoire caractérise la construction inversée, la construction copulaire inversée, est un moyen pour contourner la violation de la localité. Donc d'abord, vous éliminez, pour ainsi dire, le sujet de la small clause, ensuite vous déplacez la small clause, et ensuite vous pouvez déplacer en position sujet canonique le DP prédicatif sans qu'à aucun pas il y ait une violation de la localité. Ça, c'est une possibilité. Il y a d'autres possibilités, bien sûr, mais comme la mécanique dérivationnelle est assez intéressante, j'ai passé un peu de temps à la discuter. Maintenant, donc, si nous avons cette position focale obligatoire, on peut tester les effets de gel. Donc, est-ce que dans cette configuration, le président est Gianni, par exemple, peut-on déplacer l'élément focal, Gianni? La réponse est non. Par exemple, si vous essayez de déplacer dans une construction clivée le sujet dans la construction directe, donc vous partez de Gianni et le presidente, vous pouvez dire sans problème è Gianni che è il presidente. Mais si vous partez de la construction inverse, il presidente è Gianni, comme il avait été observé encore dans les années 80 par Giuseppe Longobardi et puis Andrea Moro a beaucoup travaillé sur cette construction, quand vous avez la construction inversée, il est totalement impossible, donc à partir de cette construction, de déplacer l'élément focal post-copulaire. Donc quelque chose comme « et Gianni che il presidente è », « c'est Jean que le président est », tout à fait impossible. Donc on voit ici une manifestation du gel critérial. Nous avons cet élément qui est en position focale, la position focale basse. Nous essayons ensuite de le déplacer à une position comme la position clivée et nous obtenons un résultat qui n'est pas possible. Donc de cette manière, nous avons testé un troisième contexte de gel critérial en plus par rapport au cas de la construction interrogative où nous ne pouvons pas déplacer l'élément interrogatif à partir d'une configuration critériale, de la position sujet canonique, disons, et maintenant nous voyons aussi cette position focale basse qui a le même comportement. Donc nous avons trois types de gel. Gardons ça à l'esprit parce qu'on va essayer de se poser la question pourquoi cet effet de gel critérial existe. Et là, il faut introduire la question de l'étiquetage, les étiquettes. Donc, voilà le sujet d'aujourd'hui, l'assignation des étiquettes. Nous avons notre opération fondamentale d'assemblage. On assemble A et B, on crée cette structure élémentaire. Et maintenant, il faut assigner une étiquette à ce qu'on obtient parce que, comme je disais, les syntagmes se comportent de manière différente. Les syntagmes nominaux, les syntagmes verbaux ont des comportements différents. Donc il faut des noms qui caractérisent ce comportement différent. Alors, dans une conception parcimonieuse de l'assemblage, l'opération en tant que telle n'introduit pas une étiquette, n'a pas le pouvoir de faire autre chose que de mettre ensemble deux éléments. Donc il faut que l'étiquette de cette structure soit héritée par l'un ou l'autre des éléments qui sont en jeu dans l'assemblage. Donc cette configuration sera ou bien un A ou bien un B. En d'autres termes, l'un des deux éléments soumis à l'assemblage est l'élément qui projette, qui donne l'étiquette, et c'est ce qu'on appelle la tête de la construction. Donc si vous faites un assemblage, je ne sais pas, d'un verbe, d'un nom, rencontrer Marie, vous les assemblez, vous obtenez une entité verbale, un syntagme verbal. Donc il faut que le nom projette ici. Considérons un instant les structures créées par l'assemblage par rapport aux structures de notation X-bar que vous connaissez peut-être à partir des cours d'introduction. Donc, dans une configuration X-bar, il y a une tête, par exemple un verbe, qui est engendré avec un complément, par exemple un syntagme nominal, si c'est un verbe transitif, puis cela projette un niveau intermédiaire, X-bar, donc V-bar par exemple, et puis cette entité se combine avec un spécificateur pour donner lieu à un XP, à une projection maximale, un syntagme, par exemple un syntagme si X0 est verbe, XP sera syntagme verbal. Évidemment, si X0 est nom, XP sera syntagme nominal, et ainsi de suite. Donc si vous pensez à ce type de configuration et comment elle est réalisée par merge ou par l'assemblage, voyez que le schéma X-bar correspond à deux applications de l'assemblage. D'abord, la tête se combine avec un éventuel complément, et puis l'ensemble tête-complément se combine avec le spécificateur. Remarquez que cette représentation est plus pauvre par rapport à la représentation X-bar. Là aussi, il y a un principe de parcimonie qui a été appelé le principe d'inclusivité, inclusiveness en anglais, selon lequel toutes les opérations syntaxiques n'ont pas la capacité d'introduire des étiquettes. Donc, merge, fondamentalement, l'assemblage, les autres aussi, ne peuvent pas introduire des étiquettes, ne peuvent pas introduire des spécifications qui ne soient pas déjà dans les éléments du lexique qu'on insère dans la structure. Donc, par exemple, à cause de l'inclusiveness, les opérations syntaxiques n'auraient pas le droit d'introduire des choses comme le niveau de bar, X bar ou XP, par exemple. Ces spécifications ne sont pas accessibles aux opérations syntaxiques. On a des représentations plus parcimonieuses, comme ça, qu'on appelle bare phrase structure, ou structure syntagmatique nue, où, en effet, vous n'avez que l'information qui est déjà dans le lexique. Dans le lexique, il y aura des éléments comme A, B, C, et vous retrouvez ici qu'un certain élément projette, mais il n'y a pas de différence de niveau de barre à ce niveau-là. Bien sûr, il faut avoir une manière, comme on le verra, pour exprimer le fait que ce nœud est un nœud maximal. On a besoin de la notion de projection maximale, même dans ce système, mais on verra qu'il y a une manière plus indirecte d'exprimer cette propriété. Encore une considération sur les représentations créées par l'assemblage. On a donné comme acquis, on n'a pas vraiment discuté, le fait que merge ou assemblage est une opération binaire. C'est une opération qui prend deux éléments et qui les met ensemble. En effet, là, il y a une hypothèse empirique, une découverte empirique importante qui est due à Richard Kane, qui, au début des années 80, avait montré que les structures syntaxiques sont systématiquement binaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas des structures ternaires ou avec plus de branches qui dépendent du même nœud mère, pour ainsi dire, même dans des cas où il serait très plausible d'avoir une structure ternaire, par exemple. Prenez une construction comme la construction à double objet en anglais. Bill gave John a book. Gave John a book. On pourrait dire, ben là, il y a trois branches, il y a le verbe et il y a les deux objets, le premier objet, le deuxième objet. Mais en effet, il y a des très bonnes raisons qui suggèrent qu'il y a plus de structure qu'embrachement ternaire dans cette configuration. Et en particulier, on peut montrer que le premier objet dans Bill gave John a book s'écommande asymétriquement le deuxième objet, donc il est plus haut dans la structure. On peut le montrer par plusieurs tests. Par exemple, Barthes et Lasnik avaient observé que certaines opérations sensibles à la sécommande montrent que le premier objet est plus haut dans la structure que le deuxième. Par exemple, 1B, Bill showed every boy his father. Jean a montré à chaque enfant son père. Hein, si il faut, on peut jouer dans la langue romane parce qu'on n'a pas de construction en double objet. Hein, là, le datif, disons, dans la langue romane, est le premier objet. Là, every boy doit pouvoir s'écommander le possessif, his, pour avoir l'interprétation à variable liée, donc pour avoir l'interprétation for every boy, Bill showed for every boy X, Bill showed X to X's father. Pour avoir cette interprétation où his fonctionne comme une variable liée, la sécommande est essentielle, on le sait, toutes sortes de cas et d'exemples. Donc il y a sécommande et il n'y a pas de sécommande dans l'ordre contraire. Donc si vous avez Bill showed his boy every father, ça, c'est une structure possible, mais c'est une structure possible si his se réfère à Bill, par exemple, et donc n'a rien à voir avec la structure quantifiée every father, mais l'interprétation où his fonctionne comme variable liée par every n'est pas du tout possible. Donc ce qui suggère que his boy est dans une position plus haute par rapport à every father, ce qui va montrer qu'une structure ternaire ne serait pas possible ici. De manière encore plus simple, ça peut être montré par les anaphores de A, I showed John himself, j'ai montré à Jean lui-même, quelque chose comme ça, difficile à traduire ça en français, en tout cas ça c'est possible, mais de B, I showed himself John, pas possible. Donc, encore une fois, le premier objet s'écommande asymétriquement le deuxième objet. Ce qui a amené à postuler des structures binaires plus complexes, comme celle que vous voyez ici, où les deux objets sont respectivement le spécificateur et le complément d'une tête verbale, V. Et puis, il y a une autre tête verbale, ce qu'on appelle petit V, qui prend l'agent, n'est-ce pas, l'agent de toute la structure dans son spécificateur. Mais en tout cas, dans ces représentations, qui sont strictement binaires, vous voyez que le premier objet sécommande asymétriquement le deuxième objet. Donc ça, c'est simplement un type de données empiriques qui suggère que l'hypothèse de Kane est correcte. Il faut effectivement faire l'hypothèse que les structures sont systématiquement binaires, même dans le cas où une structure ternaire, etc., pourrait être plausible. Donc, l'assemblage doit être binaire. Et on pourrait dire, ben, peut-être l'assemblage doit être binaire parce que c'est l'opération minimale qui a le pouvoir expressif nécessaire pour les langues naturelles, n'est-ce pas ? Parce qu'un assemblage unaire, un assemblage qui prendrait un seul élément fondamentalement, clairement n'aurait pas le pouvoir expressif désiré pour les langues naturelles, qui est de mettre ensemble des mots. Si vous n'avez au moins la possibilité de mettre ensemble deux mots, vous pouvez engendrer une structure qui a une très grande profondeur, mais avec un seul élément, fondamentalement. Ce serait l'assemblage unaire, qui évidemment ne serait pas le type de procédure récursive qui est nécessaire pour les langues humaines. Ici, ça vaut peut-être la peine de discuter brièvement une question conceptuelle intéressante. Il y a une sorte de conflit ou tension entre deux notions de simplicité. Si vous parlez à un spécialiste de discipline formelle, de logique, mathématique, etc., il vous dira que la notion de simplicité pertinente correspond à la notion d'absence de contrainte. C'est une manière possible de concevoir la simplicité, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'a pas de contrainte est très simple. Si vous rajoutez des contraintes, vous avez quelque chose de plus complexe. Alors on pourrait dire, de ce point de vue, l'assemblage NR est la forme la plus simple, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas en particulier la contrainte que l'opération soit nécessairement binaire. Donc on pourrait dire, ben, peut-être l'opération la plus simple imaginable d'assemblage est l'assemblage NR. Mais il y a un autre sens de simplicité qui clairement suggère que l'assemblage binaire est l'opération la plus simple. C'est le sens de simplicité comme opération qui a des exigences minimales en termes de ressources computationnelles. L'opération qui prend moins de ressources computationnelles. Alors, il est clair qu'un assemblage binaire prend moins de ressources computationnelles qu'un assemblage NR, en particulier parce que, comme on le verra dans deux minutes, un assemblage NR exigerait N espaces de travail, N endroits en mémoire, ou caser, stocker temporairement des structures syntaxiques élaborées pour pouvoir ensuite les assembler. Tandis que l'assemblage binaire n'exige que deux tels espaces. L'opération étant binaire, il y a un maximum de deux espaces à utiliser pour l'opération de l'assemblage. Donc c'est un cas où il y a une tension entre deux notions distinctes de simplicité. Et s'il est empiriquement correct de dire que les structures des langues naturelles sont fondamentalement binaires ou totalement binaires, comme Kane l'a montré, ici, évidemment, la notion de simplicité qui est choisie par les langues naturelles est en termes d'utilisation minimale des ressources computationnelles. Voilà, donc si l'assemblage est binaire, nous n'avons que trois cas de assemblage possible en termes des entités que nous allons assembler. Et les trois cas sont les suivants. Premier cas, item-item. Nous avons un item du lexique, un autre item du lexique, nous les mettons ensemble et nous formons une structure. Par exemple, avec Jean, nous formons avec Jean. Cette opération, comme ressource, a besoin du lexique, doit pouvoir avoir accès au lexique, évidemment. Et cette opération, en tant que telle, n'est pas récursive, parce que l'entité qu'on crée, cet élément alpha, n'est pas un item lexical, c'est quelque chose de plus, n'est-ce pas ? Donc, si on se focalise uniquement sur cette opération, ce n'est pas une opération récursive, ce n'est pas une opération qu'on peut boucler. L'opération, disons, le caractère récursif, se manifeste au prochain niveau. C'est la deuxième cas, le deuxième type de merge, d'assemblage, qui met ensemble un item et un syntagme. Donc vous avez un syntagme que vous avez déjà élaboré par des applications précédentes, vous choisissez un élément du lexique et vous mettez ces deux entités ensemble et vous formez une entité item-syntagme. Ça, c'est la situation normale de merge récursif, parce que là, vous aurez formé un autre syntagme. Alpha, c'est un syntagme. Donc, vous pouvez revenir au lexique, prendre un autre élément, l'assembler. Donc, à partir de, par exemple, avec Pierre, vous pouvez prendre parler et former parler avec Pierre. Ensuite, vous aurez un nouveau syntagme, parler avec Pierre. Vous pouvez prendre un autre élément lexical, peu, et vous mettez ensemble, peu, parler avec Pierre. Vous aurez formé une structure encore plus grande, et ainsi de suite. Alors, si vous pensez aux ressources, ici, on a besoin du lexique et on a besoin d'un espace de travail, parce que vous devez stocker temporairement quelque chose que vous avez déjà assemblé, par exemple, avec Pierre, supposons, un syntagme de n'importe quelle complexité. Donc, vous avez besoin d'un workspace. Et cette présence d'un workspace est la ressource computationnelle essentielle pour tous les processus récursifs. Si vous voulez avoir la récursivité, inévitablement, vous avez besoin d'un espace où stocker ce que vous avez calculé jusqu'à ce point. Autrement, le système s'arrêterait. Donc, ici, nous sommes dans le domaine de la récursivité. Puis, le pas suivant, l'autre type de merge, 3, est l'assemblage syntagme-syntagme. Donc, vous avez deux syntagmes déjà assemblés et vous les mettez ensemble. Par exemple, vous avez besoin de ça pour une structure sujet-prédicat. Si vous avez un sujet qui peut être de n'importe quelle complexité, l'homme dont je t'ai parlé hier à midi, sujet, puis vous avez un prédicat qui peut être d'une complexité indéfinie, a dit qu'il fallait partir immédiatement. Donc si vous voulez former l'homme dont je t'ai parlé hier à midi et a dit qu'il fallait partir immédiatement, là, vous avez besoin d'une opération syntagme-syntagme. Ce qui veut dire, comme ressource, que vous avez besoin de deux espaces de travail. Hein. L'un où vous avez élaboré un élément, l'autre où vous avez élaboré l'autre élément, et ensuite vous les mettez ensemble. Remarquez qu'ici, ma présentation est légèrement différente de l'approche de Chomsky à ces problèmes. Par exemple, dans ce texte très récent que j'ai cité, les UCLA Lectures, lui, il part d'une idée beaucoup moins limitée d'espace de travail. L'espace de travail, c'est un vaste domaine où on peut insérer autant, choisir autant de points qu'on veut. Mais il me semble tout à fait raisonnable, dans l'esprit d'un système aussi parcimonieux en ressources que le système minimaliste, de dire qu'un espace de travail ne peut contenir qu'un élément. Ce qui fait que, si nous voulons avoir une opération d'assemblage syntagme-syntagme, nous devons multiplier les espaces de travail, en avoir deux, dont chacun ne contient qu'un élément, fondamentalement. Ici, la question si cette opération d'assemblage syntagme-syntagme est récursive ou non dépend d'une question analytique d'une certaine importance, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir des spécificateurs multiples, n'est-ce pas ? Parce que là, évidemment, cette opération est l'opération dont on a besoin quand on a, si on pense en termes de représentation X-bar, un spécificateur complexe, fondamentalement. Donc, est-ce qu'on peut avoir plusieurs spécificateurs pour une seule tête ? La réponse du minimalisme standard est oui. La réponse des études cartographiques en suivant l'antisymétrie de Cain est non. Donc, fondamentalement, on peut avoir un seul spécificateur pour tête. Ce qui veut dire que si on voit deux choses qui pour être deux spécificateurs, nécessairement, il y a deux têtes. Donc, il faut postuler une tête supplémentaire. Ça, c'est un élément important qui différencie un peu certains aspects de la recherche cartographique de certains aspects du minimalisme standard. Mais c'est une question empirique, fondamentalement. Hein, donc, c'est une question à laquelle on peut essayer de donner une réponse empirique. Voilà, donc, notre typologie de l'assemblage et remarquez que cette typologie de complexité des types d'assemblage nous permet d'engendrer une série de systèmes par rapport à la complexité de l'assemblage qu'ils admettent. Je suis arrivé à cette typologie de systèmes dans le contexte d'un commentaire à un travail sur le langage animal dont je vais brièvement parler maintenant. Mais en effet, cette typologie peut s'appliquer à n'importe quel système naturel ou artificiel. Donc le premier degré, ce que j'ai appelé un système à assemblage zéro, est un système qui a le lexique, donc il y a accès au lexique, mais où il n'y a pas d'opération combinatoire. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est choisir un élément du lexique et l'utiliser comme phrase. Hein. Si vous voulez un modèle, pensez au feu rouge. Feu rouge dans sa forme la plus simple. Il y a trois mots dans ce système, supposons rouge, jaune et vert, et dans les formes les plus simples, le système choisit un seul mot, donc ou bien rouge, ou bien jaune, ou bien vert. Voilà, donc des énoncés d'un mot sont possibles dans ce type de système. Puis, il y a un premier niveau de complexité, assemblage type 1, un système qui a accès au lexique et à l'assemblage non récursif item-item, premier niveau d'assemblage. Donc, ce système permet des énoncés d'un mot, évidemment, parce qu'on peut toujours choisir un élément du lexique et s'arrêter là, ou bien le système de deux mots, parce que vous pouvez faire l'assemblage de deux mots, mais à ce point, le système s'arrête. Puis, progression ultérieure, assemblage 2, là, le système a accès au lexique, à l'assemblage item-item, et aussi à l'assemblage item-syntagme. Et là, vous entrez dans la récursivité, hein, parce que là, ce qui caractérise l'assemblage 2 par rapport aux autres systèmes est que, pour la première fois ici, il y a un système de mémoire, il y a un espace de travail où vous pouvez garder temporairement le résultat de l'élaboration. Alors, ce système d'assemblage 2 peut produire une infinité de structures, hein, parce qu'évidemment, vous pouvez continuer indéfiniment. Mais remarquez que, si on pense en termes de spécificateurs, ce système ne permet que des spécificateurs simples, parce que vous pouvez continuer avec un seul élément, vous ne pouvez pas continuer avec quelque chose de complexe. Continuer avec quelque chose de complexe exigerait le niveau suivant, assemblage 3, c'est-à-dire ici, il y a lexique, assemblage item-item, assemblage récursif item-syntagme, mais aussi assemblage syntagme-syntagme. Et là, il faut la disponibilité, étant donné ce que nous avons dit, de au moins deux espaces de travail. Pourquoi les langues naturelles, disons, les langues naturelles, toutes les langues adultes que nous connaissons, sont des systèmes, étant donné cette typologie, d'assemblage 3. C'est-à-dire que c'est des systèmes récursifs. Il n'y a aucune langue qui ne permet que des mots isolés, aucune langue humaine. Il n'y a aucune langue qui ne permet que des paires de mots comme structure engendrée. Aucune langue qui a ce type de limitation. Il n'y a aucune langue qui admet une infinité de structures, mais avec des spécificateurs nécessairement simples. Toutes les langues peuvent engendrer une infinité de structures et avec des spécificateurs complexes. Donc, tous les systèmes humains, adultes, sont des systèmes d'assemblage 3, étant donné cette typologie. Et on pourrait se demander, mais pourquoi les langues naturelles ont besoin de ça, ont besoin de ce niveau. Après tout, le niveau d'assemblage 2 permet d'engendrer une infinité de structures, donc on aurait la possibilité d'engendrer une infinité de messages. On peut se rendre compte que la possibilité d'avoir un spécificateur complexe est importante et utile. Pensez par exemple aux structures argumentales, n'est-ce pas? Dans les langues naturelles, on trouve des structures argumentales exprimées par le verbe avec un argument, s'évanouir par exemple, des structures biargumentales, des verbes comme voir, comme frapper par exemple, où il y a deux arguments, celui qui voit, celui qui est vu, celui qui frappe, celui qui est frappé, ou des structures triargumentales, à trois arguments, donner par exemple, donner quelque chose à quelqu'un. N'est-ce pas ? Alors, si vous réfléchissez un instant, vous verrez qu'il est utile de pouvoir exprimer tous les arguments par des syntagmes complexes, désigner tous les arguments par des syntagmes complexes. Mais un système à assemblage 2 ne permettrait de développer qu'un seul argument, seulement l'argument le plus bas, le plus enchâssé dans la structure, n'est-ce pas ? Parce que les autres arguments qui devraient venir après ne pourraient avoir que la forme d'un point dans la structure. Donc quelque chose comme une structure qui branche à droite systématiquement, comme il a vu la fille, hein, quelque chose comme ça, serait compatible avec un système assemblage 2. Ça pourrait être engendré toujours en prenant un élément du lexique et en le combinant avec le reste. On pourrait continuer comme ça. Mais il est très utile de pouvoir caractériser tous les arguments par des structures plus complexes. Par exemple, de pouvoir dire des choses comme « le garçon a vu la fille ». Déjà, cela exige un système assemblage 3 parce que le garçon, là, ne pourrait pas être développé comme structure complexe par un système uniquement à assemblage 2. Et même chose pour le mouvement, n'est-ce pas? Si vous réfléchissez un instant, vous verrez que tout le mouvement de syntagme a besoin d'un système assemblage 3 parce qu'il faut toujours mettre ensemble un syntagme complexe et un autre syntagme complexe. Pensez par exemple à « Quel livre as-tu lu ?» Il faut pouvoir, par « internal merge », par l'assemblage interne, mettre ensemble « Quel livre ?» et « As-tu lu ?» Les deux sont des structures complexes. Donc, le seul type de mouvement qui serait compatible avec l'assemblage 2 serait le mouvement de tête. Mais évidemment, on veut plus que ça. On veut la possibilité de déplacer tout un syntagme. Et tout cela exige le niveau d'assemblage 3. Voilà, donc, les langues naturelles ont ces caractéristiques, mais la typologie peut se révéler utile pour étudier n'importe quel système combinatoire, évidemment, mais en particulier pour essayer d'étudier l'ontogénèse et potentiellement aussi la phylogénèse des langues naturelles. Pourquoi ? Bon, d'abord, si, comme j'ai dit, toutes les langues naturelles adultes sont des systèmes d'assemblage 3, infinité potentielle de structure et spécificateur complexe. Mais si on pense à certains stades dans l'acquisition du langage, on a l'impression qu'on a affaire à un syntagme, qu'on a affaire à un système moins riche. Par exemple, il y a l'ainsi dit stade d'un mot. Donc prenez l'enfant, le bébé, entre l'âge d'un an, en gros un an et demi, très approximativement, le bébé a déjà un lexique. Hein, donc il y a des étiquettes qui sont reconnues par ses parents comme ayant une certaine caractéristique référentielle, donc maman, papa, lolo, etc. etc. Mais l'enfant peut avoir à cet âge, un an plus quelques mois, un lexique de quelques dizaines de mots, mais il ne met pas ensemble. Donc ces énoncés sont des mots isolés. C'est pour cela qu'on parle de stade d'un mot, fondamentalement. Donc, à première approximation, ça pourrait correspondre à des manifestations d'un système qui n'a pas encore l'assemblage, en tout cas en production. Il faut tester en compréhension ce qui se passe, évidemment. Mais en tout cas, en production, de manière très visible, l'enfant n'arrive pas à assembler plusieurs mots. Il y a aussi un stade, mais qui est beaucoup moins bien défini, de deux mots dans les études traditionnelles de développement du langage. Et là, on pourrait penser que ça correspond au stade où, justement, l'enfant met ensemble deux éléments, mais n'a pas accès à des formes plus sophistiquées de l'assemblage. Bon, tout ça est évidemment à tester en détail dans les études d'acquisition. Je vais parler un peu d'acquisition dans la dernière leçon, mais pas directement dans le contexte de ces propriétés. Mais ça vaut certainement la peine d'explorer ces propriétés de l'acquisition. Ce que je voulais dire est que si on regarde les systèmes de communication animale, en particulier les systèmes de communication de nos cousins, les primates non humains, on a bien l'impression que cette typologie de système combinatoire peut être utile. Parce que, en regardant par exemple la caractérisation détaillée donnée par Schlenker et beaucoup d'autres auteurs en 2016, où ils font une sorte de synthèse de résultats sur le système de communication, en particulier des singes, on voit qu'on trouve des formes de combinaison mais ces formes de combinaison sont fondamentalement limitées à deux signes. Donc il n'y a pas plus que cela. Donc ça ressemble beaucoup à cette idée d'assemblage au SAD 1 sans propriété récursive. Cet article a été écrit par Schlenker et une bonne vingtaine d'auteurs, le premier Schlenker, le dernier Subermüller, et au milieu, il y a une autre vingtaine de personnes. Et ils ont regardé en particulier les systèmes de différents types de salcopithèques, puis les mondes de Campbell, etc., salcopithèques Diane, et ainsi de suite. Et on voit que dans ces systèmes qui sont très différents, et où il y a des lexiques qui peuvent arriver à une certaine richesse, à plusieurs éléments, il y a des combinaisons qui sont indiquées en gras ici, mais qui sont toujours limitées à deux éléments. Donc ici, crack, ou, hoc, ou. Excusez-moi, ma prononciation du langage des mots n'est peut-être pas parfaite, mais en tout cas, c'est ce qu'ils produisent. Et puis également, les salcopithèques Diane produisent des combinaisons de certains signes où l'ordre est pertinent. Donc on ne peut pas avoir l'ordre opposé fondamentalement. Donc il y a des propriétés qui ressemblent un peu à ce que nous trouvons dans les langues naturelles, mais avec cette limitation. Il n'y a rien de récursif dans ces systèmes. Donc ça pourrait suggérer que cet assemblage au stade 1 est une sorte de précurseur de l'assemblage que nous voyons dans les langues humaines. Ce scénario est apparemment assez différent de l'hypothèse qui a été faite par Chomsky et Berwick dans leur livre de 2016, Why Only Us, où ils essayent de caractériser pourquoi le langage humain a certaines caractéristiques uniques. Et fondamentalement, leur réponse est que merge, l'assemblage, ne se trouve que dans les langues humaines. Ils considèrent l'assemblage comme un phénomène unitaire, donc automatiquement et nécessairement récursif. Ce que j'ai suggéré ici est un tout petit peu différent. J'ai essayé de dissocier merge et la récursivité et dire qu'il y a des formes rudimentaires de l'assemblage qui ne sont pas récursives. Et c'est seulement à partir du moment où on introduit d'autres ingrédients dans la computation, en particulier cet espace de mémoire, cet espace de travail, que le système devient récursif. Donc la propriété cruciale, responsable de ce que Ian Tattersall, le paléanthropologue Ian Tattersall, a appelé « the great leap forward », donc le grand pas en avant que notre espèce a fait peut-être entre 100 000 et 50 000 ans, il y a entre 100 000 et 50 000 ans, et pourrait être lié effectivement à l'accessibilité d'une procédure récursive qui est merge dans la conceptualisation de Chomsky et Berwick et qui, dans ma conceptualisation, pourrait être lié à la récursivité en admettant des cas d'assemblage rudimentaires, non récursifs. L'idée qu'il peut y avoir des formes d'assemblage non récursives n'est pas si bizarre que ça, après tout, parce que si on regarde dans le langage, dans différents sous-systèmes du langage, on trouve des sous-systèmes où on a des structures hiérarchiques, donc des structures où on met ensemble des éléments, mais qui ne sont pas récursives. Par exemple, pensez à la structure de la syllabe. La structure de la syllabe a une configuration hiérarchique qui ressemble beaucoup à un arbre syntaxique, n'est-ce pas ? Vous avez une attaque qui se combine avec une rime, et la rime qui est constituée d'un noyau, une sorte de tête vocalique de la syllabe, et d'une coda, mais tout ça n'est pas récursif. Ce système est évidemment hiérarchique parce que le noyau est attaché plus en bas par rapport à l'attaque, par exemple. Donc, on a bel et bien une structure hiérarchique, mais pas récursive, parce que les ingrédients de la syllabe ne sont pas des syllabes eux-mêmes. N'est-ce pas ? Donc, c'est bien différent par rapport au schéma X-bar, qui a la même forme, hein, mais là, le spécificateur et le complément sont eux-mêmes des manifestations du schéma X-bar. C'est ça qui manifeste la récursivité du schéma X-bar. Tandis que là, nous avons une forme de structure hiérarchique, donc une forme vraisemblablement d'assemblage entre des composantes plus élémentaires, mais qui n'est pas caractérisée par une structuration récursive. Voilà, enfin, nous pouvons arriver aux étiquettes, nous avons dit assemblage qui se manifeste avec la typologie que nous avons proposée et assemblage qui doit être accompagné par un algorithme d'assignation des étiquettes. Ici, à ce niveau de discussion, j'adopte simplement l'idée sur l'algorithme d'étiquetage proposé par Chomsky en 2013, un article publié en Lingua en 2013. Selon cet algorithme, l'étiquetage est simplement une question de localité. Donc, fondamentalement, c'est l'élément le plus proche qui attribue l'étiquette au nœud créé par l'assemblage. Il y a d'autres versions, j'ai élaboré moi-même une version un tout petit peu différente, Cecchetto et Donati, donc Carlo Cecchetto et Caterina Donati ont proposé dans un livre intéressant d'il y a quelques années un autre type d'algorithme d'étiquetage. Donc il y a tout un débat sur cette question, mais ici pour cette illustration, je vais me limiter à adopter la version de Chomsky. Donc un algorithme d'étiquetage qui dit le nœud créé par l'assemblage reçoit l'étiquette de la tête la plus proche. Donc, on va voir ça dans une minute. S'il y a plusieurs alternatives, on voit quelle est la tête la plus proche et on la choisit comme élément qui donne l'étiquette. Une autre hypothèse de ce système est que l'étiquetage doit être complet, c'est-à-dire quand le système arrive aux interfaces, donc est transmis au système de son et de sens, il faut que tous les nœuds aient une étiquette. Et ceci, on peut penser pour des questions interprétatives. Comme je disais, il faut pouvoir interpréter les syntagmes nominaux de manière différente des syntagmes verbaux, par exemple, des syntagmes adjectivaux. Donc, on peut penser que l'étiquette joue un rôle essentiel dans l'interprétation. Puis, l'autre considération à faire, c'est que les traits critériaux, donc nos fameux traits comme Q, topic, focus, etc., etc., sont des traits catégoriels, donc des traits qui peuvent correspondre à des catégories syntaxiques, et donc c'est des traits qui peuvent étiqueter, qui peuvent assigner une étiquette aux structures. Justement, on a des topic phrases, focus phrases, etc. Donc cette hypothèse est aussi essentielle. Alors, voyons nos trois cas de figure d'assemblage et voyons ce qui se passe pour l'étiquetage, en commençant du plus simple, item, item. Alors là, l'algorithme de Chomsky est déjà en difficulté, bien évidemment, hein, parce que s'il y a deux items qu'ils ont mis ensemble, évidemment, item 1 et item 2 sont aussi proches d'alpha. Donc, un algorithme fondé sur la localité n'arriverait pas à choisir. Ici, l'hypothèse que Chomsky fait, qui traite une bonne série de cas, peut-être pas tous, mais on peut se contenter de la couverture de cette hypothèse, je pense, pour le moment, il adopte la théorie du lexique de Hagit Borer et Alec Marantz, selon laquelle les racines lexicales sont listés dans le lexique de contenu, mais sans catégorie. Donc, vous avez simplement des racines non catégorisées. Donc, par exemple, vous avez une racine dans le lexique français, décide, simplement, qui n'a pas de catégorie, qui est compatible avec différentes catégories. Et c'est seulement quand vous l'assemblez avec un categorizer, donc un élément catégorisateur, petit v, petit n, petit a, etc., qu'il deviendra un nom ou un verbe, un adjectif. Donc cette racine plus v donnera lieu au verbe décider, par exemple. Cette racine plus le catégorisateur n donnera lieu au nom décision, ainsi de suite. Donc, si dans le cas central de assemblage item-item, l'un de ces deux éléments n'a pas de catégorie, évidemment, c'est l'autre qui gagne. C'est toujours le catégorisateur qui assigne la catégorie. Le deuxième cas est bien sûr le cas central de l'assemblage récursif. Donc ici, vous avez un item pris du lexique et un syntagme que vous avez pris de votre espace de travail que vous avez déjà élaboré. Par exemple, vous pourrez avoir élaboré une expression comme « ton frère », puis vous prenez dans le lexique « avec » et vous obtenez « avec ton frère ». Et bien sûr, c'est l'item 1, c'est « avec », qui assigne la catégorie, parce que c'est la tête la plus proche de alpha. L'autre tête disponible, l'autre item, est plus profondément chaussé ici. Donc, il n'a pas un rôle dans l'assignation d'étiquette. Et donc, de manière récursive, de que vous continuez à développer ce syntagme en prenant un élément du lexique, vous créez une nouvelle catégorie qui peut être assez aussi complexe que vous voulez et qui aura toujours comme tête le dernier élément sorti du lexique. Donc, vous construisez de cette manière n'importe quel syntagme vous désirez avoir. Dans le cas où vous avez l'assemblage syntagme-syntagme, donc syntagme 1 et syntagme 2, là, il y a aussi un problème, évidemment, parce que il y a deux têtes potentielles, l'item 1, tête du syntagme 1, et l'item 2, tête du syntagme 2, et qui sont aussi proches ou aussi éloignés d'alpha. Et donc, en principe, là, l'algorithme se bloque. Il faut trouver une solution. Il faut que quelque chose se passe pour résoudre le problème. Qu'est-ce qui peut se passer? Une solution possible qu'on a empruntée de Moro, d'Andrea Moro, qui discute ce genre de situation, c'est que l'un des deux syntagmes se déplace. Donc, s'il se déplace, il cesse d'être un compétiteur par rapport au syntagme qui reste en place. Et donc, après ce déplacement, c'est l'item 2 qui va gagner et qui va caractériser l'étiquette de alpha. Donc, vous voyez bien qu'on a là la manière de caractériser ces fameuses positions de transit. On avait vu qu'il y a des positions qui sont nécessairement de transit et où un élément peut se déplacer pour des raisons de localité, mais où l'élément ne peut pas rester. On peut penser que c'est la situation, c'est le cas de figure qui concerne ces positions de transit, justement. L'autre cas de figure, c'est bien sûr d'avoir la position d'arrêt, donc la configuration critériale. Imaginons une situation où vous créez la structure syntagme-syntagme et ça, c'est une configuration critériale, ce qui veut dire que les deux items, les deux têtes potentielles ont quelque chose en commun, qui est le trait critérial, justement, le trait Q, le trait topique, le trait focus, ainsi de suite. Alors là, on peut penser que les deux têtes les plus proches d'alpha ont une information non contradictoire à transmettre à alpha. C'est justement le trait critérial. Et donc alpha est catégorisé par le trait critérial. Vous vous souvenez qu'on a dit que le trait critérial est aussi un trait catégoriel, exprime une catégorie syntaxique. Donc le trait critérial peut assigner la catégorie à l'élément alpha. Revenons à cette fameuse question des positions de transit et positions d'arrêt du mouvement. Donc, typique position de transit, quand nous avons un verbe principal comme think, donc une phrase comme un C, which book does John think Bill read, est dérivée par le mouvement de which book d'abord au système complémentaire de la phrase subordonnée, mais ensuite l'élément ne peut pas s'arrêter là, il doit continuer à se déplacer, et donc vous obtenez la question principale, which book does John think Bill read. Par contre, il y a les positions d'arrêt. Par exemple, si vous prenez un verbe principal comme wonder, qui sélectionne une question subordonnée, donc une position Q, là, vous aurez qu'après cette application de mouvement WH, vous obtenez John Wonders which book Bill read. Et ici, nous avons une configuration critériale, donc l'élément peut bien rester dans cette position, non seulement, mais il y a l'effet de gel, donc il ne peut pas continuer. Alors voyons comment exprimer ces deux cas de manière plus précise, de transit et de gel, en termes de labeling, en termes d'étiquetage. Dans la situation de transit, nous avons donc cette représentation intermédiaire, you think which book that Bill read, quelque chose comme ça. Là, l'élément ne peut pas rester dans cette position parce que ces deux éléments donnent des indications contradictoires par rapport à l'assignation d'une étiquette à ce nœud alpha. Donc, si rien ne se passe, la structure sera rejetée comme, parce qu'il y aura au moins un nœud sans catégorie. Mais ce qui peut se passer, bien sûr, le mouvement. Donc, c'est une position de transit. Ici, le mouvement s'applique. Cette configuration reste sans adversaire, sans compétiteur, et donc alpha sera fondamentalement caractérisé comme un complémentaire à force déclarative, et c'est bien ce qu'un verbe comme think sélectionne. Donc think veut une structure déclarative. Par contre, si nous avons la configuration critériale, you wonder which book Bill read, là vous avez la configuration critériale, et cette configuration et cette configuration donnent des indications convergentes, ce fameux trait critérial, à alpha, et donc alpha peut être catégorisé comme Q, donc comme question, comme projection de la tête de question, fondamentalement. Et donc, which book peut s'arrêter dans cette position. Mais comme nous le savons, l'effet est plus fort. C'est simplement qu'il peut s'arrêter, mais qu'il doit s'arrêter, n'est-ce pas ? En d'autres termes, nous avons l'effet de gel. Nous ne pouvons pas continuer avec un mouvement ultérieur. Comment caractériser cet aspect ? Eh bien, il y a un principe qui est tellement évident qu'en général, on ne prend pas la peine de l'énoncer, mais en effet, il est utile de l'énoncer, que j'ai appelé maximalité, principe de maximalité, qui dit une chose assez banale, c'est-à-dire le mouvement des syntagmes ne peut que concerner des projections maximales. Donc, le mouvement de syntagme ne peut concerner, en termes de notation x-bar, que des xp. On ne peut pas prendre une projection intermédiaire. Ce type de déplacement n'est pas possible. On ne peut pas déplacer une projection intermédiaire en laissant derrière le spécificateur d'une catégorie. Ceci, on le voit, par exemple, prenez un syntagme adjectival comme « very close to Mary », John certainly is very close to Mary. Vous avez ce syntagme adjectival. Vous pouvez topicaliser tout le syntagme adjectival et dire very close to Mary, John certainly is. Mais vous ne pouvez pas déplacer seulement le a bar close to Mary en laissant derrière le spécificateur very. Donc quelque chose comme close to Mary John certainly is very n'est pas possible. Pas possible. Donc, vous avez besoin de prendre la projection maximale. Alors, ceci est tout à fait évident. Puis, évidemment, il y a aussi le mouvement des têtes, mais ça, c'est autre chose. Pour le mouvement de syntagme, il faut prendre le syntagme maximal. Ceci est évident en termes de théorie X-bar. La maximalité est exprimée par l'étiquette, n'est-ce pas, une étiquette comme ça. XP est maximal par définition, tandis que cette étiquette n'est pas maximale par définition. Mais si vous pensez, si vous pensez à notre méthode nue, disons, notre représentation syntaxique nue ou bare phrase structure, la représentation est moins riche parce que nous avons toujours le nœud A adjectif qui projette. Et donc, ce nœud A n'est pas immédiatement caractérisé comme maximal. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut lire directement des étiquettes, n'est-ce pas ? Néanmoins, on peut caractériser la maximalité de manière dynamique, pour ainsi dire. On peut penser que, on peut penser à cette définition. On peut dire qu'un nœud A est maximal par rapport à un trait catégoriel F, si et seulement si le nœud qui domine immédiatement A n'a pas le trait F. Donc, en d'autres termes, ici, donc vous regardez par exemple cette occurrence de A n'est pas maximale parce que le nœud qui le domine immédiatement partage le même trait catégoriel, tandis que cette occurrence de A est maximale parce que le nœud qui le domine immédiatement est différent. Fondamentalement. Donc, de cette manière, vous pouvez définir la maximalité. Et on peut définir de cette manière compatible avec le système de bare phrase structure un principe de maximalité de cette façon, c'est-à-dire que le mouvement de syntagme ne peut affecter que les expressions qui sont maximales par rapport à tous leurs traits catégoriels. Donc, si une catégorie, si une, disons, une séquence de mots, un syntagme, n'est pas maximale par rapport à un certain trait catégoriel, vous ne pouvez pas le déplacer fondamentalement. Alors, vous voyez tout de suite que ceci donne le fait de gel critérial, parce que si nous avons notre configuration syntagme, et que le trait Q ici est celui qui donne l'étiquette à toute la structure qui est caractérisée donc comme une question, vous voyez bien que, qu'une fois cette opération d'étiquetage appliquée, dans les configurations critériales, le syntagme qui a été déplacé cesse d'être maximal. C'est une caractérisation dynamique ici, parce que le nœud qui le domine immédiatement a le même type d'étiquette, et donc cette structure cesse d'être maximale. Et donc, à cause du principe de maximalité, on ne pourra pas déplacer les éléments qui entrent dans les configurations critériales. Ceci est vrai aussi pour le sujet, mais regardons juste il faut conclure. Regardons juste le cas du DP focal dans la configuration focale basse. Nous avons dit dans la première partie de cette leçon que dans la configuration The President is John, où John est nécessairement focalisé pour les raisons que nous avons vues, pour l'histoire dérivationnelle complexe que ces structures copulaires inversés ont, si cette position est focale, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait un effet de maximalité et donc de freezing, de gel, dans cette position, parce que John, une fois qu'il est déplacé dans cette position, partage quelque chose avec l'autre syntagme avec lequel il entre en relation d'assemblage, la focalité, ce qui veut dire que le trait focus projette ici, donc nous aurons ici un focus phrase, et donc cet élément ne sera pas maximal par rapport au trait focal, et donc il ne pourra pas se déplacer ultérieurement. Donc on ne pourra pas avoir, par exemple, « It is John that the president is », ce qu'on avait vu dans la première partie de la leçon. Et voilà donc les trois cas de gel que nous essayons de ramener de cette manière à l'algorithme d'étiquetage et au principe de maximalité. Mais bien sûr, ça a été aussi un prétexte pour voir toutes sortes d'autres choses, à part les effets techniques qui concernent ces structures. Donc, pour conclure cette leçon, on a donc vu trois effets de gel critérial dans les systèmes du CP, du IP et du VP. Et donc le VP étant à la périphérie du VP, évidemment, avec cette position focale basse que nous avons illustrée, le cas de gel au niveau du IP étant le gel en position sujet, et dans le cas du CP, le gel concernant les positions WH dans les questions indirectes. Ceci nous a amené à étudier la typologie de l'assemblage et le rôle de l'espace du travail, qui, selon la manière que j'ai proposé de voir les choses, est l'aspect crucial qui permet l'application récursive d'une règle, en particulier l'application récursive l'assemblage. Et nous avons essayé de considérer très brièvement quelques implications ontogénétiques et même phylogénétiques de ce type de système. Puis nous avons introduit l'algorithme d'étiquetage basé, suivant l'approche de Chomsky, sur la localité. Et nous avons vu comment le principe de maximalité et l'algorithme d'étiquetage peut nous permettre la déduction, donc l'explication en quelque sens, des effets du gel critérial, les configurations critériales étant des configurations étiquetées d'une certaine manière, ce qui détermine la conséquence que le mouvement ultérieur violerait le principe de maximalité. Ça, c'est dans manière abrégée le type d'argumentation qu'on a essayé de développer aujourd'hui. Bien, je m'arrête là pour le moment.